Bonjour et bienvenue dans l'émission Un jour un chiour. Vous êtes en compagnie de Philippe Elbez et nous parlerons de la paracha de Shemot à travers les enseignements du Shem Ishmuel. Rabbi Elazar dans le Midrash compare la Géoula à la Parnassa, la subsistance de l'homme à sa délivrance. En effet, de même que le langage qui annonce la délivrance du peuple juif a été doublé, comme il est écrit dans le Passouk, Ve'elokim pakod yivkod etrem, ve'ela etrem ina aretz, le Seigneur se souviendra de vous et il vous fera remonter de cette terre. Et donc le langage doublé c'est pakod yivkod. Et bien de même pour la Parnassa, hein. La bénédiction est doublée, comme il est écrit, Ve'yiten lecha et a'elokim. Mitala Shamaim, Omishmane Aaretz, le Seigneur te donnera de la rosée des cieux et des sucs de la terre. Donc, une bénédiction qui est composée en deux parties, l'une venant du ciel et l'autre de la terre. Si la galoute apporte la dispersion des gens et des idées, la Géoula rassemble et ramène l'unité du peuple juif. Un des indicateurs qui nous montre que nous sommes en exil, c'est le fait qu'il n'y a pas de coordination au sein du peuple juif. Il n'y a pas de leader charismatique capable de fédérer l'ensemble du peuple juif pour aller vers une seule direction. Et dès que la communauté n'est plus en unité, eh bien c'est qu'elle est en exil. Alors qu'à l'inverse du processus de la Géoula, la subsistance quitte le monde de l'unité venant du ciel pour se disperser aux quatre coins de la terre, ici-bas. La galoute nous est annoncée d'emblée dès le début de la création du monde. La terre n'était que tohu, solitude, cela fait référence à l'exil de Babel, vavohu et chaos, cela fait référence à l'exil de Madaï, vechosher, les ténèbres, cela fait référence à la Grèce, qui couvrait la face du Théom, de l'abîme, et cela fait référence au quatrième exil, le plus dur de tous, celui d'Édom. Comme si ces différents exils étaient une nécessité pour l'équilibre de la vie. Le fait que cela soit mentionné dès le début de la création du monde, cela veut dire qu'ils sont une constituant de l'équilibre du monde. Tout avait été annoncé dès le début de la création, avec une partie qui dépend du ciel et une partie qui dépend de la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim, le ciel, vet haaretz et la terre. Et si ces quatre exils existent, eh bien cela vient du fait que l'homme est constitué à la fois d'une partie des cieux, l'esprit du cerveau par exemple, et à la fois d'une partie de la terre, les sentiments du cœur. L'esprit est attiré par la profondeur des mondes supérieurs, c'est-à-dire les grandes idées universelles, tandis que le cœur préfère se tourner vers les désirs et les plaisirs de la terre. Or, nous dit le Shem Ishmuel, dans ce monde, une valeur ou une grandeur ne peut être dévoilée que par la pression et parfois l'oppression de son contraire. Rivka, par exemple, chez Lavan. Autrement dit, si Rivka incarne la vérité, eh bien elle va s'épanouir dans un milieu qui va nier la vérité, et c'est le milieu de Lavan qui n'est que imposture et mensonge. Et plus la klipa est forte, et plus l'intensité de la vérité qui se trouve dans ce lieu est puissante. Et si vous voulez, c'est parce que dans le futur, Avraham Tzadik Yaakov et plus tard le Klal Israël vont exister, prônant l'unité d'Hachem et la royauté de Dieu sur terre, que vont se développer des forces contraires, négatives, issues de ces quatre royaumes qui sont mentionnés dès le début de la création du monde. Contre la grandeur d'âme de l'homme et la maîtrise de ses pulsions, s'élèveront toujours des forces extérieures obscures issues des quatre empires cités précédemment. Et sans les différentes formes et facettes que peuvent prendre les différentes forces négatives issues de ces quatre empires, l'homme ne pourrait pas afficher sa perfection par rapport à la création, puisqu'il est le seul à pouvoir unifier le monde d'en haut avec celui d'en bas, puisqu'il arrive à recoller l'espace qui semblait séparer ces deux mondes. Cela signifie en quelque sorte que l'on a besoin de moments d'obscurité et de panique et d'angoisse pour se remettre en question et aller chercher au plus profond de notre être la ressource de vouloir continuer à donner du sens là où on a l'impression qu'il n'en existe plus. C'est donc grâce à l'opacité de l'obscurité que l'homme cherchera à produire la lumière. Et c'est parce qu'il vit dans un monde totalement déséquilibré que l'homme cherchera à donner un sens à son existence, notamment à travers les valeurs de la Torah. Malheureusement, lorsque l'homme faute, il précipite sa confrontation avec les différents exils, non pas par simple punition d'Hachem, mais ses forces accusatrices vont l'obliger à se remettre en question jusqu'à ce qu'il dévoile la grandeur qui était en lui. Et l'histoire de Yehuda en serait un parfait exemple. Au moment où il avait cru tout perdre, où il avait cru avoir raté sa vie, où les événements qu'il vivait étaient à l'opposé de la royauté à laquelle il aspirait, eh bien Yehuda a su trouver la force intérieure pour se remettre en question, et c'est à ce moment-là qu'il a dévoilé sa capacité et son aptitude à la royauté, c'est-à-dire à donner un sens global à son histoire personnelle. Les différents endroits où les Juifs ont pu séjourner durant toutes ces époques, c'est-à-dire tous ces pays où les Juifs ont été obligés d'être exilés, eh bien tous ces endroits ont été des lieux dépravés afin qu'Israël se distingue et s'éloigne de leur comportement. Et s'ils ont atterri dans ces endroits-là, c'est parce que ces endroits-là faisaient l'apologie de valeurs mensongères où l'homme se laissait aller aux pulsions de son corps. Eh bien Israël étant envoyé dans cet endroit-là pour apporter la confrontation afin que d'une part les Bné Israël se renforcent dans la valeur contraire et d'autre part pour que les nations prennent conscience des erreurs qu'ils ont commises dans les choix de leurs valeurs. Ainsi, pour que la personnalité de Yaakov se dévoile au monde, il faut qu'elle soit précédée de l'empire d'Édom, c'est-à-dire de l'empire du mensonge, comme il est écrit « Vayetse Arishon Admoni, Kulo Kadeet Sehar » Le premier qui sortit était roux, et tout son corps, pareil à une pelisse, où les poils sont dispersés et éclatés. Car Esav incarne le monde de l'éclatement et de la dispersion des valeurs, afin de contrer la vérité de la Torah et du peuple juif, et de l'unité qu'elle sous-tend. On peut retrouver ce schéma dans la Megillat Esther. Lorsqu'Aman veut accuser le peuple juif de manquement à son devoir, il dit à Achashverosh, Yeshnu am echad, ce peuple qui était echad, aujourd'hui il est mefouzar ou mefourad ben ha'amim, il est dispersé et éclaté parmi les nations. Et Aman dit que si on peut aujourd'hui attaquer le peuple juif, c'est parce qu'il a perdu sa dimension de hardout, unité qui est nécessaire au dévoilement de la vérité. Car sans unité, il ne peut pas y avoir de cohérence et d'harmonie. Alors comment Esav agit pour disperser et éclater l'unité du clan Israël? Aman nous le révèle dans sa déclaration. Le clan Israël, il est mefouzar. Cela signifie que la société dans laquelle se trouve le peuple juif a tellement diversifié les plaisirs du corps que l'homme se sent obligé de goûter à des plaisirs auxquels son cœur n'aurait même pas pensé si on ne lui avait pas proposé. Le cinéma, par exemple, nous offre tellement d'émotions et de sentiments, tendres ou violents, que l'homme se met à avoir de la compassion pour des acteurs ou des chanteurs qu'il ne connaît même pas. On se met à aimer des choses qui nous sont inconnues et à détester des gens sans même savoir qui ils sont. Il faut savoir que cette abondance de loisirs et de plaisirs empoisonne la vie de nos adolescents car ils ont l'impression de rater les plaisirs qui s'offrent à eux, plaisirs dont la société vante les mérites. Plus l'homme s'enfonce dans les plaisirs de la vie et plus il se coupe de la société puisque les plaisirs ne se partagent pas. Lorsque l'homme se vautre dans les joies d'un plaisir, à ce moment-là, il est coupé des autres, car il n'y a que lui qui compte dans la jouissance de ce plaisir. L'autre aspect, c'est méfourade. Ce terme signifie que la société a tellement inondé la place publique de ses fausses idées que l'homme croit penser avec justesse, alors qu'en fait, il est complètement conditionné par les médias. Contrairement au cas précédent où c'était le cœur qui était visé, ici, c'est l'esprit du peuple juif qui est visé par le terme méfourad. C'est-à-dire qu'on va disperser la pensée du peuple juif avec des idées qui ne sont pas celles de la Torah. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous assistons à un événement puisque les médias eux-mêmes sont dépassés par le changement de société auquel ils doivent faire face. Ici, c'est l'esprit qui est atteint, car on l'empêche de réfléchir et de vérifier la véracité des discours qui nous sont adressés en boucle par les médias. Or, Yaakov d'une part et le peuple juif d'autre part résistent et résisteront toujours à cette dispersion en prônant l'unité. Et tout ce qui touche à Israël finira toujours par converger vers sa shlemout, c'est-à-dire son unité. Voilà pourquoi Yaakov avait tant insisté sur la nécessité pour les 12 frères de rester unis. Comme il avait dit, « Vayomer et Asfou » Yaakov avait dit « Rassemblez-vous, Ikavsou » et unissez-vous, car après sa mort, les Bnei Israël risquaient de perdre l'intégrité de leurs mœurs ainsi que celle de ses principes. L'éveil du sentiment de délivrance, c'est-à-dire la Géoula, ne peut provenir que du cœur. C'est pourquoi la sortie d'Égypte ne pouvait être déclenchée que par le biais de la Tefila, c'est-à-dire par le cri du cœur, sans que l'esprit ou toutes les philosophies possibles n'y comprennent rien. C'est pour cette raison que la matzah que nous mangeons le soir de Pessah s'appelle l'Echem Oni, le pain pauvre, car il n'y a de pauvreté que chez celui qui n'a pas d'intelligence. Et c'est-à-dire que la raison évoquée par la Haggadah qui justifie que nous consommions de la matzah, c'est-à-dire du pain pauvre, c'est justement parce que cette Géoula commençait par un cri de détresse, une tefila, dans laquelle le cœur crie de toutes ses larmes pour invoquer la pitié d'Hachem afin qu'il déclenche la délivrance, la Géoula. Ici, il n'y a rien à comprendre. Pourquoi on est rentré en exil? Pourquoi on est rentré en Égypte? Pour déclencher la sortie d'Égypte, il est nécessaire que le cœur se révolte, que nos sentiments trouvent la situation insupportable. Autrement dit, ce qui a été libéré à la sortie d'Égypte, c'est la partie émotive de l'homme, c'est son corps. C'est pourquoi l'homme doit crier, l'homme doit pleurer, car les larmes sont le langage du cœur. Quant à l'esprit du peuple juif à ce moment-là, il était toujours assujetti à l'influence égyptienne. La mitzvah du Homer faite avec de l'orge témoigne de la pauvreté de l'esprit qui accompagne les hommes qui sont nouvellement affranchis. Et c'est pour cela que nous faisons la mitzvah du Homer le lendemain de Pessah, car ce qui a été libéré, c'est bien le corps, c'est bien les sentiments de l'homme, bien que son esprit soit toujours aliéné à l'influence égyptienne. L'orge, c'est la nourriture qui est réservée à l'animal. Et à ce moment-là de la sortie d'Égypte, les hommes, ces esclaves qui sortent, sont considérés comme des animaux, sans aucune manifestation d'intelligence. Et c'est pourquoi nous ne trouvons pas de grandes révélations au moment de leur sortie d'Égypte. Cette révélation arrivera plus tard, lors de l'épisode de la traversée de la mer des Joncs, Kriyat Yamsouf. Arrivé devant la plus grande impasse qu'un peuple puisse supporter, les Juifs ont su faire taire leur intelligence et leur faculté intellectuelle pour se soumettre à la volonté divine. Et c'est pourquoi ils ont mérité de parfaire leur cerveau, c'est-à-dire d'atteindre la shlemout de leur sechel. Et c'est finalement en se soumettant complètement au Da'at HaTorah, à l'esprit de la Torah, qu'ils se sont affranchis du système de pensée des nations représentées ici par l'Égypte. Et c'est parce qu'ils ont accepté de reconnaître qu'ils n'étaient pas à la hauteur du dévoilement auquel ils allaient accéder par la suite, au cours de la traversée de la mer Rouge. Et c'est parce qu'ils ont su se taire et ne pas se fier à leur intelligence que Dieu leur accorda le plus grand niveau de prophétie, au point que même la plus petite des servantes a pu prophétiser là où Yéhézkiel lui-même n'a pas pu accéder. Il fallait donc comprendre que la Géoula devait se passer en deux temps. D'abord, il fallait délivrer le corps de son asservissement au désir de ce monde matériel, et ça correspond à la sortie du pays d'Égypte, puis libérer l'esprit des étroitesses de la pensée unique des Égyptiens qui niaient l'existence d'un monde spirituel et donc d'une pensée beaucoup plus élevée et spirituelle. Cette Géoula intellectuelle correspond à la traversée de la mer des Joncs où l'homme découvre que derrière la mer opaque se cachent des secrets et des profondeurs dont on n'a même pas idée. Et ceci était même le code pour reconnaître qui serait le véritable libérateur. Celui qui évoquerait cette double délivrance serait accepté comme l'envoyé d'Hachem. Et il faut savoir que ce secret était jalousement gardé par Sérar, la fille d'Achère, c'est-à-dire celle qui avait annoncé à Yaakov que Yosef était vivant et qu'il allait revenir parmi ses frères. Et bien, lorsque Moshe est venu se présenter comme le libérateur, il a dû passer un test afin qu'on vérifie la véracité de ses propos. Et bien, l'ultime question qui départagerait les faux messies du vrai libérateur était justement ce terme de Pakod Yifkod, d'une délivrance qui se ferait en deux temps. Tout le monde savait que la sortie d'Égypte devait libérer le cœur et l'esprit de l'esclavage égyptien. Mais seule Sérar, la fille d'Achère, savait que cette délivrance devait se faire en deux temps, alors que les autres pensaient que tout se produirait en même temps. Et c'est par ce message qu'Hachem enverra Moshe libérer le peuple juif, comme il est écrit dans le Passouk, « Va marta lehem » et tu leur diras à eux, « Hachem eloke avoteichem, Hachem votre Dieu, nira elai s'est dévoilé à moi, eloke Avraham, Yitzhak et Yaakov les morts, le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, en disant, « Pakod, pakad ti etrem, ce souvenir, je me suis souvenu de vous, et, veterasu ilachem ben Misraim, et ce que l'Égypte a fait contre vous, et c'est pourquoi je vais vous sortir et vous libérer d'Égypte. Et ce n'est que parce que Moshe a employé ce terme de Pakod Yifkod que les anciens d'Israël ont reconnu la légitimité de Moshe Rabbeinu comme le libérateur envoyé par Hachem. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire sortir définitivement les Béni Israël d'Égypte, de les libérer, eh bien, il va falloir les affranchir de deux choses. D'abord, libérer le cœur des Juifs de l'influence égyptienne, et ensuite, l'esprit du peuple juif de l'influence égyptienne. Et le code que Sérar possédait était de savoir dans quel ordre devait s'opérer cette libération. C'est pourquoi à la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu de louange, il n'y a pas eu de déclaration intellectuelle. Car à ce moment-là, seul le corps était allégé, soulagé de la pression des désirs égyptiens. Mais la tête d'Ibn Israël était toujours plongée dans son esclavage. Il faudra attendre la traversée de la mer Rouge pour avoir le cantique de la Shira, qui est une proclamation intellectuelle de la gloire d'Hachem par le peuple juif. Ce qui prouve que l'esprit juif a été libéré à ce moment-là. Et c'est pour cela que nous disons dans la prière de tous les jours « Vaya Aminu Bachem Uv Moshe Avdo » c'est dans la Shira. Nous proclamons, nous affirmons que c'est à ce moment-là que les Béné Israël ont eu foi en Moshe Rabbeinu, car c'est quand l'Esprit a exprimé la Shira que la Geoula a été complète. Et l'on peut dire qu'à ce moment-là, le ciel et la terre ne formaient plus qu'un, puisqu'Israël avait traversé la profondeur du sens de la vie, c'est ça la traversée de la mer, et qu'ils avaient trouvé au fond de cette profondeur, eh bien, le royaume de Dieu. C'est pourquoi, durant cette traversée, ils ont pu percevoir le sens de l'histoire depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Je vous souhaite Shabbat Shalom.